Publicité.
Attention, entrepreneurs et professionnels de la comptabilité, il est temps de transformer votre gestion d'entreprise avec Akumbago, la solution web 100% québécoise conçue pour vous. Depuis plus de 35 ans, Akumbago soutient les PME d'ici en vous offrant un écosystème complet pour optimiser chaque aspect de vos opérations. Facturation flexible, gestion des clients, fournisseurs et bien plus. Choisissez le forfait qui vous convient et bénéficiez d'un service de qualité en français depuis le Québec. Visitez dès maintenant akumba.com pour découvrir leurs solutions ou planifier une démo. Akumbago, l'allié des entrepreneurs du Québec. Dans le monde numérique dans lequel nous vivons aujourd'hui, où chaque clic peut se transformer en une opportunité commerciale, le marketing d'influence s'impose comme un vecteur de choix pour créer des ponts solides entre les marques et les consommateurs. Mais au-delà du potentiel viral, quelle est la trame légale qui encadre ces collaborations, souvent scrutées sous la loupe de l'authenticité et de la transparence? Il y a une avocate qui se spécialise dans le domaine du marketing d'influence, qui travaille avec les créateurs, qui vient de publier un livre sur le sujet qui s'intitule « Guide pratique sur le marketing d'influence » et c'est publié aux éditions Yvon Blais. On la rejoint à l'instant. Bonjour Aïcha Touré.
Bonjour.
Aïcha, pourquoi écrire ce livre maintenant sur les aspects légaux du marketing d'influence? Ça fait un moment que vous êtes là-dedans. Est-ce qu'il y a eu un déclencheur en particulier?
Je vous dirais que mon déclencheur premier, mon but premier dans l'écriture de ce livre-là, c'était déjà d'avoir une ressource écrite à ce sujet-là à un seul et même endroit. Donc, j'avais l'impression déjà qu'il n'y avait pas de livre de rédiger sur les aspects juridiques du marketing d'influence. Et surtout que j'avais l'impression que beaucoup de gens avaient de la difficulté à trouver l'information nécessaire et aussi à naviguer un peu cet écosystème qui n'est pas toujours simple.
Pour que ça soit plus clair dans la tête des gens qui nous écoutent, à quoi ça ressemble un exemple concret de cas juridique propre au domaine du marketing d'influence?
Bien, je dirais que le code de base, en fait, c'est une entreprise qui veut lancer une campagne de marketing d'influence pour faire la promotion d'un produit ou d'un service. Et donc, dès en fait l'idéation de la campagne, il y a déjà des problématiques, mais il y a déjà des enjeux juridiques qui se créent. Donc, est-ce qu'on a le droit de faire affaire avec l'influenceur avec lequel on fait affaire? Est-ce que lui a le droit de faire affaire avec nous? Est-ce que le genre de campagne qu'on veut faire est légal? Est-ce que les propos qu'on veut inclure à la campagne sont légaux? Si on veut faire affaire avec tant de personnes dans le cadre de la campagne, comment on fait? Si on veut inclure de la musique, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut pas? Est-ce qu'on peut sur une plateforme oui, mais sur une plateforme non? Quand même beaucoup d'enjeux assez rapidement dès le début.
Vous parlez de plateforme. Est-ce qu'il y a des plateformes de réseaux sociaux qui sont plus problématiques du point de vue légal là, par rapport à des campagnes de marketing d'influence?
Je dirais pas qu'il y en a des plus problématiques que d'autres. Chacune ont leur particularité. Donc, il y a certaines plateformes qui vont avoir la particularité par rapport à ce qu'elles permettent comme promotion sur leur plateforme. Il y en a où leur particularité, ça va être au niveau de la musique. Il y a des plateformes qui vont avoir plusieurs types de comptes. Et donc, chaque compte vient avec ce qu'il peut et ce qu'il ne peut pas faire en termes de légalité aussi. Donc, je ne dirais pas qu'il y en a une de plus complexe qu'une autre.
Il y a un an et demi environ, on s'était parlé, puis vous, ça fait pas mal plus longtemps que ça que vous aidez les créateurs du numérique. Est-ce que vous trouvez qu'avec le temps, les marques et les influenceurs se protègent mieux?
Est-ce qu'elles se protègent mieux? Globalement, je pense que oui. Je pense que les entreprises se protègent mieux juste par...
Les contrats.
On apprend, oui, en effet, les contrats et on apprend au fur et à mesure qu'on fait des campagnes. Donc, c'est sûr que plus on en fait, plus ces entreprises-là apprennent et plus les modifications se voient dans les contrats. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup à apprendre pour beaucoup d'intervenants dans ce milieu-là.
Où vous voyez les principaux problèmes?
Pour moi, j'en ai parlé récemment, le grand problème découle, de la multiplication des intervenants. Donc, parce que des fois, on a l'impression que c'est juste un client puis un influenceur, mais souvent, il y a un client, il y a un influenceur, l'influenceur est représenté. Souvent, le client va engager une agence de marketing qui, elle, va être l'intermédiaire, qui va discuter avec l'influenceur.
On est rendu à 4 ou 5 personnes.
Oui. Exactement. Et cette multiplication-là des intervenants fait en sorte que tout le monde n'est pas nécessairement conscient des enjeux des autres et de ce qu'il faut garder en tête. Et mis à part ça, il y a juste, en général, beaucoup de cadres législatifs qu'il faut connaître et qu'il faut respecter dans ce milieu-là. Et donc, les deux ensemble font en sorte que ça peut créer des problématiques assez, je veux dire, intéressantes, légalement parlant,
Ben pour une avocate,
complexes.
j'imagine, oui.
Mais complexes, oui.
Il y a tout le volet, puis ça, c'est encore une des zones grises dans le marketing d'influence, la divulgation. On a l'impression qu'avec le temps, on saurait qu'il faut le dire, mais de part et d'autre, autant de la part des influenceurs qu'autant que des clients qui veulent faire affaire avec eux, on a l'impression que c'est une ligne fine où les gens essayent de danser. Est-ce que je me trompe?
Je pense pas que vous vous trompez quand vous dites que c'est une ligne que les gens essaient de danser.
Ouais.
Par contre, moi, j'aurais tendance à dire que la plupart du temps, la ligne, elle est assez claire. Je pense que c'est plus un. On a envie que ça soit flou, mais dans la réalité, je pense pas que c'est si flou que ça,
Parce que
comme
dans les
obligation.
faits, il faut être clair par rapport à ce qu'on produit et ce que les gens vont voir.
Exactement. L'obligation de base, en fait, de la divulgation, c'est la personne qui voit ma publication doit comprendre, un, s'il y a un lien matériel ou non entre moi et l'entreprise, et deux, c'est quoi la nature. C'est aussi simple que ça. Il faut que la personne, dès qu'elle regarde la publication, elle le comprenne.
Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité où le marketing d'influence soulève plus d'enjeux, où ils sont plus importants?
Je dirais pas qu'ils sont plus importants, mais je pense que oui, ça soulève plus l'enjeu, parce que les influenceurs, à la base, je pense pour beaucoup d'entre eux, sont pas nécessairement conscients de toutes les obligations légales en fait qui leur incombent. Donc, si on regarde juste le domaine de la publicité par lui-même, les gens qui travaillent en agence de pub, etc., après un certain temps, on comprend ce qu'on peut dire, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, etc. Mais c'est vrai que pour beaucoup de créateurs de contenu qui n'ont jamais eu à penser à ça, c'est peut-être pas un réflexe. Puis je pense notamment il y avait eu un cas, je pense, il y a quelques années, avec un ancien participant d'Occupation Double qui avait fait une pub pour du sirop pour la toux NyQuil, mais lui était membre de l'Ordre des infirmiers et des infirmières du Québec. Et donc, les obligations déontologiques à respecter en matière de publicité, lui aussi, dont il n'était probablement pas conscient, parce que c'est vrai qu'au jour le jour, la plupart des professionnels, on ne parle pas de nos obligations en matière de publicité, parce que la grande majorité des gens ne sont pas dans le domaine, n'ont pas particulièrement à faire de la publicité. Et donc, je pense que surtout du côté des créateurs de contenu, ça peut être difficile à gérer. Et aussi pour les autres intervenants qui, probablement eux non plus, n'avaient pas réalisé que la personne faisait partie de l'ordre et qu'elle avait elle aussi des obligations à respecter.
Tout à l'heure, je vous posais la question par rapport au fait de l'évolution, par rapport aux influenceurs et aux entreprises. Maintenant, s'ils étaient au fait, ils se protégeaient mieux. Mais de l'autre côté, si on regarde le cadre légal lui-même, est-ce que vous trouvez que ça évolue, ça, pour mieux encadrer et mieux répondre à la réalité?
Est-ce que ça évolue? Oui, ça évolue parce que, bon, il y a quelques années, des lignes directrices, on n'en avait pas, des documents clairs faits pour les non-juristes, en fait, par les instances gouvernementales pour qu'elles comprennent ce qu'elles peuvent faire, ce qu'elles ne peuvent pas faire. On n'avait pas ça avant, donc on se basait sur ce qui était fait aux États-Unis. Maintenant, on a ces lignes directrices-là. Après, je pense pas que le problème, c'est qu'on n'a pas assez de législation. La législation, elle est là et elle existe. Je pense qu'on a un problème de compréhension de l'application et peut-être aussi du désir d'application de ces lois-là.
Et on peut entendre ce qu'on veut dans votre réponse.
Oui.
Quel conseil vous donnez à un influenceur pour mieux comprendre les spécificités du marketing d'influence dans son domaine, mis à part l'achat de votre livre, là, évidemment, ce serait de
Ouais.
bonne guerre, mais pour aller, pour poursuivre en parallèle, ce serait quoi le meilleur moyen?
Ben déjà, je pense que c'est important de penser à ce qui nous incombe nous-mêmes comme obligation et ce qu'on peut faire par rapport à ça, et plutôt c'est la responsabilité des autres. Donc, l'influenceur ne peut pas connaître toutes les lois applicables en matière de publicité dans les domaines de tous les produits et tous les services dont il va faire la promotion. C'est pas vrai qu'on peut demander à un influenceur de connaître toutes les obligations pour faire la promotion de nourriture, toutes les obligations pour faire la promotion de services professionnels, de jouets pour enfants, tout ça. On peut pas demander ça à un influenceur. Par contre, un influenceur doit savoir ce qui s'applique à lui ou à elle. Et donc, déjà, je pense que de prendre connaissance des lignes directrices sur la divulgation des normes de la publicité, ce serait déjà la base. Prendre connaissance des questions de la loi sur la protection du consommateur, ce serait déjà la base. Et après ça, je pense il y a un travail de constitution de son équipe. Donc, je pense que c'est important d'avoir des gens autour de nous qui sont bienveillants et qui savent aussi ce qu'ils font et qui sont conscients de ces enjeux juridiques-là, que ce soit un agent individuel, une agence, peu importe. Et ensuite, je pense qu'il y a aussi une obligation de communication qui est importante. Donc, de dire, moi, si j'ai des obligations juridiques qui m'incombent et qui sont propres à moi parce que je fais partie d'un ordre, parce que j'ai signé avec une équipe de sport professionnel, peu importe, de les communiquer et de demander de la part des gens avec qui on travaille aussi de communiquer leurs obligations à eux. Parce que moi, si je suis influenceur et que je travaille avec une entreprise dans le domaine médical, ben, je m'attends à ce que l'entreprise me dise qu'est-ce que je peux dire et qu'est-ce que je ne peux pas dire pour son produit et son service. Ça, c'est pas à moi de savoir ça.
Puis c'est important, je pense, de le rappeler. Ce que vous dites, ça s'applique autant à l'influenceur, bon, vous parliez de gens qui sont connus, mais aussi à des nano ou des macro-influenceurs. Là. Du moment qu'on prend sa présence numérique pour annoncer quelque chose, de vendre quelque chose, on est concerné par tout ça. Là.
Absolument. La taille ne fait pas de différence dans ce cas-ci, absolument.
En terminant, est-ce que vous trouvez que la France est un exemple dans le domaine du marketing d'influence par rapport à son encadrement avec la loi qu'ils ont sortie là, en juin passé, la loi sur les influenceurs? Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne approche dans le domaine?
Je pense que oui, c'est une bonne approche parce que je pense que ça a fait, ça fait en sorte que beaucoup d'influenceurs, tout d'un coup, se sont sentis concernés. Je pense que le un des problèmes qu'on a en ce moment, tu disais, le problème, c'est pas l'évolution des lois. Les lois, elles existent. Mais j'ai l'impression que beaucoup de créateurs de contenu n'ont pas l'impression qu'elles s'appliquent à eux. Si on leur parle alors sur la protection du consommateur, rapidement comme ça, la plupart vont se dire que ça ne s'applique pas à eux, la loi sur la concurrence, etc. Alors que je pense que ce que la France a bien fait, c'est de dire on va créer des lois pour les influenceurs, dont certaines dispositions existaient probablement dans d'autres lois, mais tout d'un coup, ces gens-là se sont sentis concernés et c'est beaucoup plus facile, je pense, de demander à quelqu'un de respecter les lois quand il se sent concerné, en fait, à la base.
Quand tu vois le nom de son métier dans la loi. Mais est-ce que vous aimeriez voir le même type de loi être adoptée ici au Québec, au Canada?
C'est une bonne question que vous me posez. Je ne sais pas si on a besoin de ce type de loi-là. Je ne sais pas si on a besoin de supplémenter notre régime législatif avec ce genre de loi-là. J'imagine qu'on verra dans les années à venir, mais bien que notre régime législatif n'est pas nécessairement complet en ce moment, je pense qu'on en a un qui est quand même solide. Le problème qu'on a, c'est le faire respecter.
Le faire connaître et le faire respecter.
Exactement. Parce que moi, j'en vois là, de la violation là, tous les jours quand je me promène sur Instagram et sur TikTok.
À Chattery, vous êtes avocate spécialisée dans le domaine des créateurs et vous venez de publier un guide pratique sur le marketing d'influence aux éditions Yvon Blais. Et pour les gens qui sont intéressés à mettre la main sur le livre, bien évidemment, en faisant une recherche, ils vont trouver. Mais sinon, je mets un lien sous le descriptif de cet épisode et vous pourrez trouver un lien pour aller acheter directement le livre en ligne. Et il n'y a pas de lien commercial avec ce lien-là.
En aucun cas.
Bonne et due forme. Exactement.
Ouais.
Aïcha, merci beaucoup et je vous dis à la prochaine.
Merci beaucoup.